monde durable. Déjà demain, les territoires face au changement climatique.
Une collection de reportages à la rencontre de celles et ceux qui transforment nos façons d'habiter, de vivre et de faire territoire.
Bonjour à toutes et à tous. Pourquoi et surtout comment rendre accessible au grand public les connaissances scientifiques liées aux enjeux du changement climatique et de l'érosion de la biodiversité ? Nous en parlerons dans quelques minutes avec Virginie Resson-Victor, présidente du GIEC des Pays de la Loire. Pour rappel, le GIEC, c'est l'organe des Nations Unies réunissant un groupe d'experts internationaux sur le climat. Mais avant cette interview, direction la tournée du climat et de la biodiversité qui a fait escale à Nantes au printemps 2026. Il s'agit d'une exposition itinérante dédiée à ces enjeux et portée par l'association Météo et Climat. Romain Méril de Jet FM, votre radio associative nantaise, est allé à cette occasion à la rencontre des visiteurs et donc des spécialistes du climat et de la biodiversité.
Nous croyons dans la science, nous croyons dans les experts qui nous disent la réalité des faits. Et donc merci de l'avoir traduit en exposition.
Michel Ménard, président du conseil départemental de Loire-Atlantique.
C'est important de vulgariser les connaissances scientifiques pour faire en sorte que les élèves aient... une opinion éclairée, que les adultes se saisissent de ces enjeux majeurs, parce que nous savons que la question du réchauffement climatique, du dérèglement climatique, va impacter nos vies.
Alors sur cette question de la sensibilisation du public au changement climatique.
Chloé Girardeau-Moitié, vice-présidente du conseil départemental de Loire-Atlantique pour les ressources, les milieux naturels, la biodiversité et l'action foncière.
On a plusieurs actions qui sont menées dans le département. On a à la fois des balades en nature où on va avoir dans nos espaces naturels des visites avec du public qui permettent de leur expliquer les enjeux de la biodiversité, en quoi nos espaces naturels servent de puits de carbone, comment nos espaces naturels sont aujourd'hui confrontés au dérèglement climatique. C'est par exemple quand on a des sécheresses, des cours d'eau qui sont à sec, des poissons qui souffrent. Donc il y a vraiment tout un lien qui est fait entre les espaces naturels, qui est une compétence départementale, les espaces naturels sensibles et les enjeux climatiques. Mais c'est aussi, par exemple, des équipements comme la Maison du Lac de Grandlieu, où on a un espace d'exposition avec une nouvelle scénographie depuis l'année dernière, qui permettent de comprendre aussi les effets des dérèglements climatiques dans notre territoire, et notamment sur les zones humides, puisque le département de Loire-Atlantique est le deuxième département en termes de zones humides. Grandlieu est une zone humide emblématique, et comme toutes les zones humides, elle souffre des dérèglements climatiques.
Moi, je trouve cette image excellente, ces images excellentes, parce que ça montre qu'on est tous sur un même vaisseau qui s'appelle la Terre.
Cette exposition tournée du climat et de la biodiversité a démarré en 2023 et est en itinérance dans toute la France. Elle reçoit les élèves à partir du CM1, mais veut s'adresser au plus grand nombre. Habitants, élus, associations ou collègues d'entreprise, vous êtes les bienvenus. J'ai eu la chance de découvrir l'exposition le jour de son ouverture. Étaient présents plusieurs messagers du climat, à savoir des scientifiques de l'association.
Et voilà, donc moi je m'appelle Jean-Michel Soubérou. Donc je travaille donc à Météo France. Je suis météorologue et climatologue. Et aujourd'hui, ben, je viens contribuer donc à faire messager donc, de la tournée climat et biodiversité. En fait, elle a un double objectif, c'est autour de la compréhension donc, des enjeux climatiques et biodiversité, et puis donc sur la mise en avant des actions aussi pour lutter contre le changement climatique et puis toute l'érosion de la biodiversité. Et donc c'est une exposition donc, qui est à la fois sur des aspects scientifiques, mais aussi des aspects ludiques, de façon à rendre donc, les supports attractifs.
Vous faites la différence entre le climat et météo ?
Oui, mais là, dans cet exemple,
ouais, celui-là,
ça conjugue un peu les deux.
Alors, qu'est-ce qui est ludique dans cette exposition ?
Eh bien, regardons-le ensemble. Je ne sais pas si, pour la radio, si ça marche bien, mais par exemple, donc, on se pose la question. La première idée, ça va être, par exemple, de séparer ce qui relève donc, de la météo et du climat.
Alors, je vais prendre l'exemple suivant. Il va faire froid le week-end.
il faudra mettre une écharpe pour sortir.
Ça, c'est météo.
Ben aujourd'hui, voilà, à Nantes, il fait 25 degrés, donc on a presque déjà oublié qu'il y a une semaine, il faisait un temps pourri et qu'il pleuvait. Ça y est. Et donc, l'humain, il zappe très rapidement d'une chose à l'autre. Et donc, on est vraiment, on baigne dans la météo. Mais par contre, le climat, on a du mal à le ressentir parce que le climat, c'est des moyennes sur 30 ans.
Il a plu le 8 mai.
Météo.
Il pleut pendant la saison de la mousson en Asie. C'est du climat. Et là.
Est-ce que vous avez senti de l'inquiétude sur ce sujet ?
L'idée de l'exposition, c'est justement de ne pas renforcer l'éco-anxiété qu'il pourrait avoir naturellement chez les enfants, mais de montrer justement à travers un système qui est géré avec des solutions qu'on peut agir, et les enfants aussi de réfléchir donc quels sont les moyens d'action. Des moyens d'action qu'eux-mêmes déjà peuvent mettre en œuvre, ou avec leurs parents, ou avec leur école.
Réduire sa consommation d'énergie.
Ne pas utiliser l'IA.
Avoir un potager.
Moins de produits industriels et manger local.
Me vapser à l'école ou en bus.
Arrêter de construire des routes.
Bah, préserver la biodiversité.
Qu'est-ce que je pense de l'expo ? C'est fantastique d'avoir ces outils pédagogiques. Faut pas effectivement tout faire reposer sur les enfants, qui sont plutôt au fait de ces changements. Maintenant, c'est pas à eux seuls de porter cette responsabilité. Donc j'espère que de nombreux adultes viendront voir et s'inspireront de ces faits scientifiques. Voilà.
Alors voilà, le jeu de la balance. Il faudrait arriver à limiter nos émissions à l'équivalent de 2 tonnes d'équivalent CO2 pour chaque habitant sur cette planète, en moyenne.
Pour avoir ton quota de 2 tonnes par an,
je vais faire le test. Alors, si vous mangez végé, je suis déjà... Moi, c'est déjà le cas, en fait. Voilà.
0,9 tonnes.
Ah, c'est
en fait, l'alimentation,
c'est juste, oui. Juste, ouais, tu peux juste manger
dans ta vie.
Allez, on est obligé de mettre les services publics.
Oui.
Oui, parce d'accord. que tout le monde cotise
une quota.
Oui, d'accord. Quota service public.
Alors ensuite, la maison plutôt isolée ou plutôt mal isolée?
Plutôt isolée, super.
Et le dernier, c'est le voyage. Alors c'est plus difficile, les vacances. Alors soit on va en Suède en train, soit on va en Suède en voiture, ou alors on va en Australie, en avion.
Ah non,
Je voudrais la Suède en train.
C'est pas grave, hein. C'est génial.
Mais on va faire le total, 1,2 plus 0,2, 1,4, plus 0,26, 1,66, plus 0,2, 1,86, 1,94, 1,98.
On est bon.
Vous y êtes arrivés.
Donc ça passe. Okay,
ça passe. Après, dans la vie, c'est pas si simple. Des fois, on fait un peu de tout.
Pourquoi l'affaire, elle n'est pas gagnée?
Tout le monde dit c'est les autres, et puis et pourquoi moi je ferais des efforts et pas le voisin, et que finalement si j'ai envie de me faire plaisir, pourquoi je le ferais pas?
Et puis en fait on vit dans un système, c'est-à-dire que si on habite dans des endroits où c'est le chauffage au gaz, si on est privé de transport en commun, qu'on est obligé de prendre sa voiture, en fait mécaniquement il y a des gaz à effet de serre qui sont émis, en fait, et des transformations systémiques, il n'y a pas que le comportement individuel.
Bon, la neutralité carbone, c'est, disons, ça interroge le mode de fonctionnement de notre société, soyons clairs.
Jean Jouzel, climatologue et président de l'association Météo Climat.
À mon regret, les solutions, si on ne les met pas en musique tout de suite, et on a déjà pris beaucoup de retard, il sera trop tard pour que les jeunes d'aujourd'hui puissent s'adapter sans difficulté dans la deuxième partie de ce siècle. C'est un message très fort à chaque fois. Il faut vraiment que nous agissions aujourd'hui pour que les jeunes n'aient pas, à nous maudire dans 50 ans pour ne pas avoir pris les mesures, alors que nous savons collectivement qu'il faut les prendre. Voilà, merci.
Voilà, à l'instant, ce reportage au cœur de la tournée du climat et de la biodiversité qui a fait étape à Nantes au printemps 2026. Pour mieux comprendre encore l'importance de diffuser largement les connaissances scientifiques à toutes les populations, Romain Méril de Jet FM est allé à la rencontre de Virginie Resson-Victor, présidente du GIEC des Pays de la Loire, qui agit notamment sur cette sensibilisation sur ce territoire.
On a un rôle de vulgarisation, de transmission des connaissances et des savoirs que n'a sans doute pas de la même manière le GIEC international. Hein.
Virginie Resson-Victor, présidente du GIEC des Pays de la Loire.
Dans le cas du GIEC des Pays de la Loire, ce n'est pas le même acronyme. Enfin, l'acronyme ne dit pas les mêmes choses que pour le GIEC international. Et donc, ce sont deux organisations totalement indépendantes. Et le premier point commun, c'est effectivement, ce n'est pas un organisme de recherche, c'est un ensemble de chercheurs, alors beaucoup plus interdisciplinaires qu'à l'échelle internationale. Et on va agréger l'ensemble des données et des études disponibles sur les questions climatiques et sur ces impacts, les impacts du changement climatique dans la région. Et le deuxième point commun, c'est le consensus, c'est-à-dire que chaque note, chaque rapport que nous publions doit être validé par l'ensemble des chercheurs en plénière. Donc ça, c'est les deux points communs. En revanche, on a un rôle d'éclairage des décideurs locaux sur les mesures, les orientations qui peuvent être menées pour faire face au changement climatique, à la fois en termes d'atténuation et d'adaptation. Dans les impacts du changement climatique en Europe, et y compris donc sur notre région, il y a une évolution du régime des pluies, des précipitations. Il y a une concentration. Le total du volume des pluies sur l'année, en gros, ne devrait pas fortement évoluer. Mais c'est plutôt la répartition des jours de pluie et des saisons. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être moins de jours de pluie au total, mais avec des pluies plus intenses. Et par ailleurs, une concentration des pluies sur qui vont du mois de novembre au mois de mars-avril et beaucoup moins de précipitations après. Ce qui fait qu'on passe effectivement d'une saison qu'on va appeler une saison humide à une saison sèche et non plus sur quatre saisons aussi marquées qu'auparavant. Aujourd'hui, à l'échelle mondiale, on estime qu'on est à une élévation de la température moyenne qui est autour de plus 1,3, on ne doit pas être loin de plus 1,4 degrés et on s'approche très vite de plus 1,5 degré. Mais ça, c'est une moyenne mondiale. Or, la température d'une région à l'autre, déjà entre les océans, la température à la surface des océans et la température à la surface des continents n'est pas la même. Le réchauffement est beaucoup plus marqué sur les continents qu'il ne l'est à la surface des océans. Et ensuite, d'une région à l'autre, même d'un continent à l'autre, ça varie beaucoup. Il se trouve que l'Europe fait partie des régions les plus touchées par le réchauffement climatique. Donc, là où le réchauffement global a atteint, on va dire, plus 1,4 degré depuis la période pré-industrielle, eh bien, c'est-à-dire depuis 120 ans, en gros, eh bien, la région, on a le même réchauffement, mais sauf que nous, c'est depuis 60 ans. Donc, on a un réchauffement ici qui est des températures moyennes qui est deux fois plus rapide qu'à l'échelle mondiale. Parmi les impacts du changement climatique, les phénomènes liés à l'évolution des températures, il y a la dilatation des océans. Alors, évidemment, il y a la fonte des glaciers, qui augmente le volume d'eau, mais surtout pour l'instant aussi, c'est la dilatation des molécules d'eau. Donc c'est comme si l'océan est gonflé. Et donc ça produit une élévation du niveau de la mer, avec une variation importante possible. On est dans un scénario, on est à plus 40 cm d'ici la fin du siècle. Dans un autre scénario, on est à plus une augmentation moyenne de 80 cm, voire potentiellement à plus d'une élévation supérieure à 1 mètre. Mais dans tous les cas, même dans le scénario le plus bas, l'élévation du niveau de la mer, c'est un phénomène qui est engagé et qui va se poursuivre. Et le problème, c'est qu'il y a une partie de notre littoral qui est située en dessous, qui est au niveau de la mer, voire avec un arrière-pays du littoral qui est en dessous du niveau de la mer. Et donc, si en période normale, eh bien, ça résiste, mais dès que vous avez une forte houle ou une tempête, eh bien, on a un phénomène de submersion qui arrive plus fréquemment, plus rapidement, à mesure que le niveau de la mer s'élève. Et par ailleurs, vous avez le trait de côte qui recule, évidemment, dans certains endroits, de manière extrêmement marquée, qui peut avoir des conséquences sur, sur l'habitat côtier, sur les routes, sur les infrastructures. Donc c'est tous ces phénomènes qui sont, qu'on peut trouver derrière le mot de l'élévation du niveau de la mer. Il y a plusieurs déclinaisons du phénomène, plusieurs types d'impacts pour la région littorale et en particulier la région vendéenne, évidemment, puisque c'est là où le littoral est le plus bas. Pour l'approvisionnement en eau et pour la Loire en particulier et a fortiori à Nantes parce qu'on n'est pas loin de l'estuaire de la Loire. L'été, si vous avez moins, comme on aura moins de précipitations, ça veut dire que le débit des fleuves va diminuer. Eh bien, le débit est tellement faible que les eaux salées de l'estuaire, ce qu'on appelle le bouchon vaseux, peut remonter beaucoup plus facilement parce qu'il n'est pas contré par la force des forces de débit suffisantes. Or, si on prélève de l'eau dans ce bouchon vaseux, c'est extrêmement, on ne sait pas la traiter. Et d'une manière générale, le prélèvement dans les rivières, il est aussi lié à la température de l'eau. C'est-à-dire qu'au-delà d'une certaine température, on ne peut pas prélever l'eau. Avec le changement climatique, l'élévation des températures, le risque augmente que les seuils de température ne permettent pas de prélever autant d'eau en période estivale. La chaleur a de multiples répercussions sur notre organisme et sur notre environnement qui lui-même a des répercussions sur l'organisme. Alors le premier impact, c'est évidemment ce qu'on appelle le stress thermique, ou, enfin l'élévation de la température du corps. Et pour des personnes plus âgées ou des nourrissons, dont le corps régule moins sa température, il est, ça présente un risque plus important en termes de cardiovasculaire en particulier. Mais après, vous avez effectivement d'autres impacts. Je pense, vous parliez d'épidémie. On voit que avec l'élévation des températures, certaines espèces migrent. Et quand elles migrent avec leur virus ou elles migrent avec les bactéries dont elles peuvent être porteuses aussi. Après, il y a des pathologies mentales qui sont importantes. On observe, par exemple, qu'en période de canicule, vous avez plus de suicides. Plus de violence aussi, plus de tension. On le sent bien, d'ailleurs, quand il fait très chaud, on s'énerve plus. Et ben, ça se retrouve dans le travail, ça se retrouve dans les foyers. La violence sociale peut augmenter à ce moment-là. Puis, à tout ce qui est lié, aux allergies. Et à la pollution, parce que la pollution de l'air augmente avec la chaleur. Et donc, toutes les pathologies respiratoires peuvent être amplifiées en période de forte chaleur. J'en oublie, il y a beaucoup de choses. En fait, il y a beaucoup d'impacts. Il y a énormément de travail encore en termes de sensibilisation. C'est essentiel et ça passe par différents niveaux. Les programmes scolaires, probablement qu'il y a encore des choses à faire de ce côté-là. Ensuite, il y a évidemment via les parents, cela dit, hein, l'éducation, il y a les enseignants, mais il y a aussi les parents. Il y a encore les médias, il y a tout un travail qui a été mené, une enquête qui a été menée sur l'information climatique et on voit très clairement que certains médias influent énormément sur l'information climatique, y compris sur des médias qui vont cultiver le déni climatique ou atténuer le risque climatique, etc. Et l'autre chose qui est très importante, c'est le sentiment d'injustice climatique. C'est-à-dire que si on a le sentiment se diffuse que finalement c'est toujours les mêmes aux mêmes de faire des efforts et qu'on demande toujours aux plus vulnérables, aux plus pauvres, etc., il y a un rejet. L'effort de vulgarisation, c'est jamais monofactoriel. Il y a un ensemble de choses. Et c'est parce qu'on va être touché par des conséquences et qu'on nous aura expliqué l'origine d'un phénomène par lequel on sera touché. C'est une sensibilité aux saisons. C'est effectivement une éducation. C'est un système alimentaire aussi. Un régime alimentaire qui peut être... vous avez des écoles où il y a toute une pédagogie autour de ce qu'on mange, d'où ça vient, comment c'est produit. Regardez les enfants... leur fait planter des... Moi, je trouve ça extrêmement intelligent de faire planter des graines et montrer comment ça fonctionne. Si vous n'avez aucune idée de ce que c'est qu'un jardin, ce que c'est qu'une plante, ce que c'est qu'une saison, vous ne serez pas du tout sensible au dérèglement des saisons. Donc, c'est un ensemble de choses. Et effectivement, emmener les... Tous ceux qui ont fait une expérience de jardin le savent, hein, à quel point rien qu'un petit lopin de terre ou un jardin, les jardins collectifs, de ce point de vue-là, c'est extrêmement positif. Ça peut être très positif. C'est aussi une forme de contact à la nature, parce qu'on ne peut pas tous vivre dans une cabane au fond des bois pour être sensible à la nature et à ses bienfaits. Face à l'incertitude et face à cette tendance, soit on est découragé, et il y a certains matins où c'est décourageant. soit on se souvient de ce qui s'est passé dans l'histoire et on sait que les basculements, dans les deux sens, ils sont toujours le produit d'une minorité. Moi, je m'accroche à cette idée-là. Je ne sais pas si elle est vaine ou pas. Mais en tout cas, ce que je constate, c'est que c'est dans l'action et dans la cohérence qu'on tient bon. C'est-à-dire que moi, je ne me sens pas déprimée parce que de voir que d'année en année, eh bien, avec, dans ma famille, on a changé notre alimentation, notre mode de chauffage, notre mode de déplacement. Enfin, c'est petit à petit, hein, on a appliqué ce que je préconise. Et on s'est rendu compte du gain de qualité de vie. Et cette expérience-là, elle se transmet, elle peut se raconter. Et donc finalement, moi, je m'accroche à le fait de donner envie en montrant l'exemple, le fait d'être actif parce que si on subit, ça nous renvoie à notre propre impuissance. Et puis le souvenir de mes cours d'histoire qui montrent que les révolutions, elles se préparent longtemps à l'avance et les contre-révolutions aussi. Et donc voilà, il faut se passer du bon côté.
Vous venez d'écouter « Déjà demain », Les territoires face au changement climatique.
Une collection de reportages produite par la CorLab et la FRAP avec le soutien de la Fondation de France. Cette série s'inscrit dans le cadre du projet Onde Durable.
Un projet soutenu par l'État dans le cadre du dispositif Soutenir des alternatives vertes 2 de France 2030, opéré par la Banque des territoires, groupe Caisse des dépôts.